السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait dans son essence, donc dans son être. Le parfait dans ses noms et attributs, tous aussi beaux les uns que les autres. Le parfait dans ses actes qui tous oscillent entre sa bienveillance, sa pitié, sa miséricorde vis-à-vis de ses créatures, c'est lui qui a tout créé, et sa justice, l'équité qui s'est imposée, subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'injustice. Puisse-t-il bénir le meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdullah, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Celui que Allah guide, nul ne saurait l'égarer, et celui qui est privé de sa guidée, tu ne le trouveras aucun guide. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, et j'atteste que Mohammed est son messager et son serviteur. Ensuite donc, soyez les bienvenus dans une des maisons parmi les meilleures maisons sur la terre. Je veux parler de mosquée, même si c'est en Algéco, alhamdoulilah. Allah vous y a invité, alhamdoulilah, et donc, le temps que nous passerons, inchallah, ensemble, on lui demande de bénir ce temps, de bénir nos familles, de bénir notre temps. Et le déroulement de l'après-midi, ce qui est prévu, et Allah seul sait ce qui va se passer, c'est qu'il y aura donc une causerie autour du thème qui est affiché. Ensuite, question-réponse. Donc, on va essayer, vu le temps qui est très court, mais qu'Allah le bénisse. Donc, on a 1h30, même pas. Donc, on va essayer de faire 45 minutes de causerie. 45 minutes de questions, puisque c'est la partie qui m'intéresse. Certaines viennent juste pour une question. Donc, mieux vaut répondre aux questions plutôt que de rester en train de parler de généralité. Voilà. S'il y a des personnes qui souhaitent se reconvertir, donc, qu'elles contactent les personnes. Et si elles ont besoin d'un reçu, entre guillemets, c'est devenu, malheureusement, une exigence de certaines personnes de consulat pour valider des mariages, ou pour aller au Hajj, ou pour aller à l'Umra, pour avoir des visas. Quand on a un prénom qui n'est pas typique de pays musulmans, ils demandent, une attestation. Alhamdoulilah, ils acceptent les attestations fournies par les mosquées, en tout cas la nôtre. Sauf si c'est l'Algérie. C'est une particularité qui exige que ce soit, la mosquée de Paris ou la mosquée de Lyon. Donc même ici, ils refusent. Bon, alhamdoulilah, ça c'est pas un problème. Normalement, il suffirait d'attester devant deux témoins qu'on est musulman pour que ça suffise. Mais bon, alhamdoulilah. Donc on rend ce service-là. Donc la mosquée a quelques activités, en particulier lundi, après le dohr, il y a le cours des sœurs. Après le dohr, lundi, il y a le cours des sœurs, c'est ouvert à toutes, sans inscription préalable, et c'est gratuit bien sûr. Et donc ces cours traitent essentiellement du dogme, notamment actuellement des noms attributs, de comprendre plutôt les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala du cheikh Abdelrazak al-Badr. Donc c'est un livre que je vous recommande, c'est une étude que je vous recommande, puisque c'est la meilleure des sciences, le fait de connaître Allah. Et donc je vous le recommande, les sœurs en particulier. Je sais que c'est pas évident puisque c'est en semaine pour celles qui travaillent, etc. Mais bon, c'est ce qu'on peut vous proposer, puisque vous avez par ailleurs d'autres occupations. Le mardi après le dohr, il y a un cours de tajwid, mais l'inscription est clôturée. Il y a eu énormément de demandes, surtout chez les sœurs, alhamdoulilah. Beaucoup de demandes, au point que même les frères qui veulent rester entre le dohr et l'asr sont dehors, puisque les sœurs occupent les deux salles. Tellement il y a des demandes pour l'arabe et le tajwid, ce qui est la façon révélée, légiférée de lire le Coran. Donc ces cours sont gratuits aussi, mais pour des raisons logistiques, puisqu'on n'a pas trop d'enseignantes, donc ça a été limité et là c'est clôturé en attendant inchallah que Allah nous ouvre la nouvelle mosquée. Donc à ce moment-là on prendra certainement d'autres inscriptions. Le mardi donc il y a des cours sur le dogme également. Là c'est pour les hommes ouverts aux femmes, c'est-à-dire comme actuellement. On se retrouve dans cette salle après l'Isha et il y a un cours. Actuellement nous sommes en train de... C'est sur les fondements de la sunna actuellement de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde. le fondateur ou celui que Allah a laissé, dont il a laissé le nom, à la quatrième école, qui est l'école Hanbalite, donc qui est une école orthodoxe, comme vous le connaissez, et qui est reconnue comme les autres écoles dites Hanafite, Malikite et Shafiite. Donc c'est après le Isha, et les sœurs qui sont intéressées, alhamdoulilah, peuvent y participer. C'est retransmis donc par haut-parleur, et si elles n'ont pas de quoi, et je leur conseille de ne pas venir à pied, seul, donc si elles n'ont pas de quoi être véhiculées, alhamdoulilah, il y a des sœurs qui pourraient les aider et les raccompagner chez elles, parce que dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je ne conseille à personne de laisser sa sœur ou sa femme venir seule, le sortir seule d'ailleurs le soir, encore moins si ça vient de mosquée et si c'est habillé en musulmane. Donc on peut avoir des, malheureusement les satans se sont, malheureusement pour eux, les satans sont déchaînés, et donc il se peut qu'il y ait des agressions. La plupart des agressions en France aujourd'hui, c'est des agressions islamophobes et à l'adresse des femmes, parce qu'elles sont vues et elles sont combattues pour ce qu'elles sont. Donc qu'Allah les préserve et les récompense par le meilleur, pour leur sabre, leur patience. Donc on a également mercredi, ce qui n'a pas Allah alayka salamatullah, mercredi on a des cours, lundi soir, il y a des cours d'arabe, Nouraniya, pour les hommes, pour les frères. Je dirais pas que c'est fermé, les inscriptions sont clôturées, mais en tout cas ils ont déjà avancé, ça fait au moins un mois qu'ils ont commencé, voire plus. Mais bon, vous pouvez toujours contacter, toujours c'est après l'Isha. Vendredi soir, il y a un cours de règles du commerce, de fiqh du commerce. Samedi, c'est après l'après-midi, comme hier, hommes et femmes. On fait l'explication de certains versets du Coran. On est dans la sourate, on a commencé la Fatiha, ensuite la 114, et on est maintenant dans la 25, Al-Furqan. Donc on espère, inshallah, si Allah nous prête vie, de terminer l'explication de tout le Coran, ce qui paraît être un minimum. Le tafsir, les noms d'Allah, donc le même livre du cheikh Abdelrazzaq al-Badr, qu'Allah le préserve. On parle également de la médecine des cœurs, de l'imam Ibn Qayyim, et ceux qui le lisent, ceux qui le connaissent, alhamdoulilah, prions pour lui, parce qu'Allah lui a donné vraiment une compréhension profonde de l'islam. Et on fait également le fiqh de la prière collective, du cheikh Uthaymin, donc on a presque terminé maintenant pour la prière collective. Dimanche, enfin, après le Maghreb, entre le Maghreb et l'Isha, il y a le tafsir, l'explication de sourate courte. Aujourd'hui, donc, on aura la fin de la sourate 57, Al-Hadid, la fin. Et on aura également le début de l'explication du livre sur la patience du cheikh de l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un excellent livre, je ne dirais pas comme tous ces livres, mais presque. Je vous le conseille. Et certainement, celui à qui la patience a été donnée, un très grand bien lui a été donné. Et une partie vous a été donnée parmi les nobles caractère sans transition de par rapport au sujet aujourd'hui, les nobles vertus, les nobles caractères que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'humain et l'a éprouvé par ça. Et le prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith que vous connaissez certainement, d'où le titre, donc il a dit: je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Et ceci a été compris par les gens comme étant la religion totale. La religion, c'est le bon conseil, c'est la loyauté. Mais ce qui dit ad-dinu mu'amala, certains disent que la religion, c'est pas un hadith. Le hadith, il est très faible. La religion, c'est les relations commerciales ou les relations entre les gens. C'est pas faux, le sens, mais ce n'est pas juste de dire que la religion est ça, puisque la religion est définie par Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut pas dire ça, même si on entend souvent ça. C'est vrai que le caractère, les nobles caractères sont tellement importants que Allah a voulu les associer à des récompenses énormes dans ce bas monde avant l'au-delà. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait pas de lui-même, quand il disait que je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères, cela souligne l'importance des nobles caractères et également définit les caractères. Quelqu'un qui a des bons caractères, entre guillemets, a un bon comportement, et qui néanmoins ne fait pas sa prière ou n'est pas croyant, on peut pas dire que il a un bon comportement. L'imam Al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, il définissait Il disait, le comportement extérieur indique la nature du comportement intérieur. Les mouvements des membres sont les fruits des pensées de l'esprit et les actes sont le résultat du comportement. J'entends par là, quand on parle de comportement, on parle des vertus. Mais en réalité, quand on parle des vertus, les nobles caractères, c'est ce qui est intérieur. Et le comportement, c'est ce qui vient refléter l'intérieur. Quand l'intérieur est plus beau, comme c'est votre cas, c'est ce que j'espère, que l'extérieur, tu vas demander la main d'une femme, on va te dire non, 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 celui-là, on préfère un riche, etc. Allah seul est riche. C'est bon signe pour toi, parce qu'ils ont choisi quelque chose qui est pérenne, quelque chose plutôt qui est périssable et qui ne rapporte pas grand-chose. Mais si l'extérieur, malheureusement, pour nous, est plus beau que l'intérieur, et c'est quelque part la définition de l'hypocrisie qu'Allah nous appelle là. Quand tu vois quelqu'un, tu penses du bien de la personne, alhamdoulilah, et c'est notre dogme, on doit penser du bien de tout musulman jusqu'à preuve du contraire. Pas comme ça, mais son look ne me plaît pas, non, moi, je, non, on n'a pas le droit. C'est Allah seul qui sait, et il juge, hein, et il est le seul juge. Quand l'extérieur est beau, on espère du bien pour l'intérieur, mais l'intérieur doit être meilleur que l'extérieur. Et donc cet intérieur, c'est ce qu'on appellera donc les vertus, ce qui est caché. Et le comportement nécessairement doit refléter l'intérieur. Et Allah, dans sa miséricorde, a voulu que aucun d'entre nous ne quitte ce monde sans que son intérieur se reflète sur son extérieur. On peut avoir, mashallah, une vie que l'on peut espérer être la plus pieuse possible, et si on n'est pas sincère, Allah nous éprouve au point que les gens verront qu'on n'est pas sincère. Parce qu'Allah est juste et donc le résultat sera le courroux d'Allah qu'Allah nous en préserve et la personne meurt dans un état qui n'est pas satisfaisant. Et quand l'intérieur est beau, malgré tous les péchés, Allah fait, dans sa miséricorde, que la fin soit meilleure. Auquel cas, il nous pardonne nos fautes et nos erreurs et il sera satisfait de nous. Et donc je vais essayer de parcourir avec vous ce livre du Cheikh Abdelmalik Ramadani. Invitation au bon comportement. On va commencer d'abord par quelques exhortations. Il appelle ça invitation, donc au bon comportement, c'est-à-dire donc vis-à-vis de l'extérieur qui est basé forcément sur les nobles caractères. La noblesse du caractère, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette vie soit un terrain pour permettre à chacun d'exprimer ses dispositions, ses vertus et ses défauts. Et nous avons tous, comme vous le savez, pris l'engagement d'adorer Allah seul sans lui associer quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Et si nous nous sommes jugés, c'est bien parce qu'Allah nous donne à chacun la capacité, les armes pour traverser ce monde sans nous perdre. Le jeu n'est pas déjà fait, bien que lui sache tout. Il connaît, il sait tout, subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, il a donné à chacun la bonne nature, ce qu'on appelle la fitra, qui contient les vertus au travers desquelles on va traverser ce monde sans nous perdre, inch'Allah. Grâce à lui, puisque tout bien procède de lui, et la hawla wa la quwwata illa billah, sans lui, rien ne se réalise. Mais en même temps, nous ne sommes pas égaux, entre guillemets, d'un point de vue caractère, d'un point de vue don. Parce qu'Allah est juste. Allah est juste, hein, et il va juger les gens en fonction de ce qu'il leur a donné. Il est inimaginable de penser qu'Allah te demande une chose et que tu ne peux pas la faire. Ça, c'est impossible. Donc, il a donné à chacun la fitra, la saine nature. Fitra qui te permettra, inch'Allah, de traverser ce monde sans te perdre grâce à Allah, au travers de ce qu'il a décrit, qu'il a enseigné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont été favorisés par certaines vertus, dont certains ont du mal à pratiquer, et d'autres, ça leur est facilité. J'entends par là, si le prophète Sassam nous a dit qu'il y a trois catégories de personnes, Allah ne va pas leur parler au jour du jugement dernier, ne va pas les regarder, et à eux, un châtiment terrible, vous imaginez, Allah leur a facilité la chose, quand même, ils tombent dedans. Un dirigeant ou un roi qui est menteur, qui n'a aucune raison de le faire. Que moi je mente parce que je veux faire ma prière à l'heure, que je mente parce que je veux faire ceci, je n'ai pas d'excuse. Mais C'est plus compréhensible que quelqu'un qui ne, a priori, n'a aucune raison de mentir. Donc celui-là ne va pas être jugé comme l'autre. Une personne âgée qui est fornicatrice, wallahoudoubillah, il n'a même pas envie. Un jeune est plus tenté que quelqu'un d'autre. Lui, il n'en a même pas envie. Il le fait quand même. Ça traduit son fond qui est mauvais. La troisième catégorie, un pauvre orgueilleux. T'as rien. Et en plus de ça, tu as pris, l'orgueil est un très vilain défaut qui a amené Satan, comme vous le savez, là où il est, là où il sera, dans la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis. Toi, tu n'es rien. Allah t'a éprouvé pour ton bien. Et en plus, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Donc, il n'a aucune raison d'être, de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Aucun d'entre nous. Mais lui, encore moins. Donc, il y a ces nobles caractères qui sont innés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala jugera les gens en fonction de ce qu'il leur a donné. Mais là où on sera le plus récompensé, c'est en faisant les efforts, en fonction de ce qu'Allah nous a donné. Et chacun d'entre nous, Allah l'a armé, donc, d'une volonté, d'une sincérité qui doit l'amener vers ce que Allah veut, puisque c'est lui qui nous éduque tous. Il y a ce que l'on sait, ce que l'on aime naturellement, qui est la fitra, qui sont les caractères comme la générosité, comme la longanimité, comme le pardon, etc. Il y a des vices tels que le mensonge, la trahison, que personne d'entre nous n'aimerait, l'impatience, l'envie, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, a envoyé un messager, alayhi salatu wasalam, pour nous indiquer la bonne voie, la droite voie. Il a fait des nobles caractères un objectif pour les pieux, quand il dit en particulier le verset que vous connaissez certainement de la sourate Al-Imran, verset 133 ici, je pense que c'était 131, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Élancez-vous vers un pardon ineffaçable de votre maître, hâtez-vous vers un paradis immense, aménagé aux dimensions des cieux et de la terre, réservé à ceux qui craignent Allah, qui sont-ils? À ceux qui dépensent plutôt leurs richesses en aumône, qu'ils soient dans la gêne ou dans l'abondance, qui savent dominer leurs ressentiments et pardonner à leurs prochains, et Allah aime les âmes généreuses. C'est une invitation. Le prophète sallam a dit ce qu'on a déjà vu, rapporte par l'imam al-Bukhari, je n'ai été envoyé en réalité que pour parfaire les nobles caractères. Il a dit également, dans ce qui a été rapporté par Ahmad et Abu Daoud, dans la balance, au jour du jugement dernier, rien n'égale le poids des nobles caractères. Dans la balance, rien n'égale le poids des nobles caractères. La piété, quand il a été interrogé, husnul khuluq. Al-birr, husnul khuluq. Le bien, tout le bien est dans le noble caractère, il a dit, alayhi salatu wasalam. Il a dit également, les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Les croyants qui ont la foi la plus complète, c'est ceux qui ont les meilleurs caractères. Ceux qui, parmi vous, seront les plus proches de moi le jour du jugement dernier, il parle de lui, bien sûr, et que j'estime le plus sont ceux qui sont dotés des meilleurs caractères. Si tu veux être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors fais des efforts pour lui ressembler, alayhi salatu wa sallam, lui qui n'a été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Quelle est la meilleure des œuvres? Quand on lui a demandé, alayhi salatu salam, il dit, c'est la noblesse de caractère. On lui demanda aussi, qu'est-ce qui donne le plus accès au paradis? Il a dit, c'est la crainte d'Allah et la noblesse de caractère. L'homme, dit le prophète sallallahu alayhi salam, acquiert les plus hauts degrés du paradis et les places d'honneur rien que par la noblesse de caractère, alors même qu'il a de médiocres pratiques culturelles. Quand on dit médiocre, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui, les obligations sont des obligations, et donc on va pas chercher à demander des réductions pour les obligations, mais c'est pas quelqu'un qui jeûne les lundis et les jeudis, et le 13, 14, 15, c'est pas quelqu'un qui passe le dernier tiers de la nuit à prier, etc. Mais néanmoins, il peut atteindre des degrés les plus élevés, donc, au paradis. Il y a donc beaucoup de choses, beaucoup de mérites à avoir le bon caractère, mais dont, entre autres, un pécheur qui voit ses péchés pardonnés en raison de son bon comportement. البخاري مسلم النسائي كان الفاس ميزيريكاردو d'après Abu Huraira, ils ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il était un homme qui n'avait jamais fait de bien. Quand il n'avait fait jamais de fait bien, il était croyant. Il prêtait de l'argent aux gens et disait aux percepteurs qu'il employait, prends ce qu'ils peuvent te donner et laisse-leur ce dont il leur est difficile de se séparer et fais-leur grâce, peut-être qu'Allah nous fera grâce. Il le fait pour Allah. Allah l'a éprouvé par des biens, il le prête aux gens. Et il demande à son percepteur de ne prendre que ce que les gens peuvent donner et ne pas donc les amener, ne pas envoyer d'huissier ou de confisquer leurs affaires pour faire donc pour les confisquer et les vendre aux enchères pour récupérer son argent comme on a tendance à le faire. Lorsque cet homme décéda, Allah lui dit « As-tu déjà fait une bonne action ?» L'homme répondit « Non, si ce n'est que j'employais un jeune homme, un jeune percepteur, et prêtais de l'argent aux gens. » Lorsque je l'envoyais récupérer mon argent, je lui disais, prends ce qu'ils peuvent te donner et laisse-leur ce dont il est difficile de se séparer et fais-leur grâce, peut-être que Allah nous fera grâce. Allah lui dit alors, sache donc que je te fais grâce. À cause de ce comportement-là, bien sûr, Allah donne, tout bien vient d'Allah. Dans une autre version, Allah dit alors, nous sommes plus à même de faire grâce à autrui que toi. Faites-lui grâce. Donc Allah lui fait grâce parce que il faisait grâce aux gens. Et on sait beaucoup de hadiths qui sont dans le sens de faire miséricorde aux gens pour que le miséricordieux nous fasse miséricorde. Les anges également sont proches des gens qui ont un bon caractère et les démons sont éloignés de cela. C'est là une des caractéristiques les plus importantes que représente qu'Allah a donné aux gens dotés de bon caractère. Dans la sunna, il y a des preuves, en particulier celui que vous connaissez, Abu Huraira Kalalagré, a rapporté qu'un homme insulta Abu Bakr, radiallahu anhu, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis. Celui-ci se mit à sourire et se réjouir. Il n'acceptait pas, bien sûr, ce qu'Allah n'aimait pas. Il l'insulte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit. Mais lorsque l'homme excéda Abu Bakr, radiallahu anhu, dans ses propos injurieux, ce dernier répondit à certaines de ses insultes. Il a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère et se leva pour partir. Abu Bakr, radiallahu ta'ala anha, attentif à ce que faisait le prophète, s'empressa de le rejoindre et lui dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, cet homme m'insultait alors que tu étais assis. Lorsque j'ai répondu à certains de ses propos, tu t'es courroucé et tu t'es levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il y avait un ange qui répondait à ta place. Il y avait un ange qui répondait à ta place, mais lorsque tu t'es mis à répondre à certaines des injures, Satan fit son apparition. Or, il ne me convient pas de rester ou d'être assis avec Satan. C'est facile à dire, mais Allah le donne à qui il veut. Tu vois pas, je vais lui montrer qui je suis. Moi aussi, j'ai appris des gros mots. Non. Ça t'avance à rien du tout. Au contraire. Mais, on m'a eu la qaha, il a la dina sabaru. Qui y arrive, c'est ceux à qui Allah a donné la patience. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc, le prophète m'a dit ensuite, il y a Abu Bakr, trois choses ne sont que vérité. Aucun opprimé ne se retient de répondre à l'injustice qui lui est faite en cherchant par là la satisfaction d'Allah sans que Allah ne lui fasse justice avec force. Personne n'est injustement traité et que tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil, je laisse ça à Allah sans que Allah ne te réponde. Masha'Allah, alhamdulillah, ils ont existé. Peut-être qu'il y en a encore parmi vous. Aucun homme ne dépense de ses biens dans le but de renforcer les liens de parenté sans que Allah ne décuple ses richesses. Je dis surtout à ceux qui vont au bled, se disant, c'est pas possible, ça fait un an que j'économise, et il faut aller, après je vais dépenser tout ça, je vais gaspiller tout ça. Ça dépend de l'intention. Tu vois tout ce que tu vas faire parce que tu vas avoir tes parents, parce que tu vas aider les pauvres, surtout de la parenté, t'en fais pas. Le résultat est connu. Alhamdulillah, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Aucun homme ne se permet de mendier dans le but de s'enrichir sans que Allah n'accroisse sa pauvreté. Les arnaqueurs, là, spécialistes, sont dans des BMW et ils traînent dans les mosquées en train de demander, de mentir, ma fille a eu un cancer ou je ne sais quoi d'autre, etc. Allah l'humilie et sa pauvreté ne fait qu'augmenter. Il y a bien d'autres hadiths, inchallah, on va passer dessus. Le musulman au bon comportement se rapproche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu tout à l'heure. Le prophète, alayhi salatu salam, aime les personnes dotées d'un bon comportement. Ainsi, Jabir, radiallahu anhu, rapporte du prophète, sallallahu alayhi salam, qui a dit, ceux d'entre vous qui me sont les plus chers et qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux dotés du meilleur comportement. Et ceux d'entre vous qui me sont les plus détestables et qui seront les plus éloignés de moi le jour de la résurrection sont les bavards, ceux qui tiennent des propos orduriers jusqu'à la fin du hadith. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son prophète d'avoir le meilleur comportement possible quand il le dit dans la sourate Qalam, Nun, dans la sourate Qalam appelée aussi Nun 68, wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes d'une moralité éminente. Le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au bon comportement, on pense tous avoir un bon comportement. On verra inchallah à la fin comment nos femmes nous voient. Comment nos amis nous voient, surtout comment nos enfants nous voient, parce que c'est les autres, ceux avec qui nous vivons, qui nous supportons, c'est eux qui peuvent dire si on a un bon caractère ou pas. Avec les autres, mashallah. On a un look généralement bon. Mais quand on va demander à ceux qui nous supportent tous les jours, souvent ce n'est pas la même version. Mais pour vous dire que le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il accordait au bon comportement était tel que, alors qu'il était sur son lit de mort, il pensait aux servants faibles, de peur que leurs droits ne soient lésés et que l'on néglige de subvenir à leur indigence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invocation que vous connaissez, quand il se levait la nuit dans le tahajjud pour prier, quand il disait « Allahumma hadini li ahsani akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa ant. » « Oh Allah, guide-moi vers le bon comportement. » Le bon comportement, personne ne peut y guider si ce n'est toi. Jusqu'à la fin, donc, du hadith. Et ce bon comportement, il faut le définir. Il est le fait, l'imam Ibn Taymiyyah, le fasse miséricorde, dit que le verset le plus complet ou le plus résumant le bon comportement, c'est خذ العف وعمر بالمعروف وعارض عن الجاهلين بارك الله فيك. Accepte ce qu'on t'offre de convenable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Il dit dans ce qu'il dit et qui est résumé par le fait que il y a vis-à-vis des autres, ne demande pas ton droit. Prends ce qu'on te donne. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs, prends ce qu'on te donne et ne vois pas que ce qu'on ne te donne pas. Ibn al-Muqri, donc ici, dit « L'homme n'atteint la noblesse d'âme qu'après s'être doté de deux caractéristiques. Se passer de ce que possèdent les gens et être indulgent envers leurs méfaits, il a fait ça, c'est lui qui va le payer. Donne à chacun son droit et Allah va te donner, subhanahu wa ta'ala, tes droits. » Donc, « خذ العف وعمر بالمعروف, ordonne le bien, interdit le mal. » وَعَرِضَ الْجَاهِلِينَ et éloigne-toi donc des ignorants. Et ici donc se passer de ce que possèdent les gens et être indulgent envers les méfaits qui peuvent émaner d'eux. Et la personne la plus ancienne à ma connaissance dont les propos concernent ce verset, c'est la surat al-A'raf a été attribuée, on dit que c'est Ja'far al-Sadiq, qu'Allah yani lui fasse miséricorde, un des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bon comportement ne concerne pas que les gens de la famille ou que les musulmans. Le bon comportement doit concerner tous les êtres humains. Ce n'est pas envers les musulmans seulement que l'on doit avoir un bon comportement. Notre situation ici en particulier doit nous le rappeler. Au contraire, les musulmans doivent globalement se comporter de façon noble avec tous les hommes, et les femmes bien sûr, qu'ils soient musulmans ou non. En effet, Allah dit subhanahu wa ta'ala, « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » Ayez de bonnes paroles avec les gens, et on ne va pas rentrer dans le commentaire des savants dessus. Et donc, ceci est une obligation vis-à-vis de celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas, puisqu'au jour du jugement dernier, le mauvais comportement sera payé, et on sait également que le bon comportement doit être envers toutes les créatures, toutes les créatures. Envers toutes les créatures, au point que, comme vous le savez, une femme ira en enfer à cause d'une chatte. Parce que non seulement elle lui a pas donné à manger, à boire, mais elle a séquestré la chatte qui en est morte parce qu'elle n'a pas pu aller toute seule aller chercher à manger, à boire. Mais ce bon comportement n'est pas seulement envers les créatures. Quand on entend, pour que l'on imagine, pour que l'on comprenne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que je n'ai été envoyé que forcément, ça concerne avant tout le Créateur. Quand on parle de vertu, noble vertu, c'est avant tout vis-à-vis du Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala le définit à plusieurs endroits, en particulier dans le verset 177 de la sourate Al-Baqarah, Ayatul Birr, que l'on connaît, « Laysa al-birra, antu wallu wujuhakum, qibla al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi » jusqu'à la fin du verset, appelé le verset du bien. « La bonté pieuse, ou la birr, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant, c'est-à-dire votre comportement extérieur dans la prière, mais la bonté pieuse est de croire avant tout en Allah, au jour du jugement dernier aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner à son bien, de son bien, quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux-là sont les endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et voilà les gens qui sont pieux. Et le fait que le prophète sallam, Allah l'ait pétri d'un caractère le meilleur, d'une moralité éminente, est expliqué donc par ce que disait Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui disait, son comportement c'était le Coran. C'est-à-dire que les mœurs du prophète sallam étaient conformes aux mœurs prônées par le Coran. Il mettait donc en pratique ses obligations du Coran et délaissait ses interdits au point où la mise en pratique du Coran devient un comportement commun, telle une seconde nature qui ne le quittait plus. Si Allah a révélé le Coran, l'a conservé, c'est bien pour qu'on en prenne soin. Et le comportement des compagnons du prophète sallam en atteste. Ils comprenaient chaque verset du Coran comme si, en tout cas la plupart des versets, comme si ça leur était adressé. Au point que quand le verset, le premier verset de la sourate 49, Al-Hujurat, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله jusqu'à la fin de ces premiers versets, ô vous les croyants, n'anticipez pas les décisions d'Allah et de son messager, craignez Allah pour que vos œuvres, pour ne pas risquer de voir vos œuvres être perdues. Des compagnons du prophète sallam sont restés chez eux craignant parce qu'ils ont élevé la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de ce que l'on l'essence générale du bon comportement était connue du temps des pieux précesseurs, qu'Allah fasse miséricorde. Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, a rapporté à ce sujet qu'un pieux précesseur a dit, le bon comportement se divise en deux. Le premier est le bon comportement envers Allah. C'est le fait de savoir que l'on doit s'excuser pour tout ce qui émane de soi et que l'on doit remercier Allah pour tout ce qui émane de lui. On doit s'excuser pour tout ce qui émane de soi et on doit remercier Allah pour tout ce qui émane de lui. Or, tout bien émane de lui. Et donc, il dit ici, on ne cesse donc de remercier Allah et de s'excuser auprès de lui en cheminant vers lui, tout en étant reconnaissant pour ses bienfaits et en admettant l'imperfection de nos âmes et de nos actes. Parmi le bon comportement, chacun en conviendra, si tu t'excuses souvent, excuse-moi, tu fais un examen de conscience, etc., les gens diront, voilà quelqu'un qui a un bon comportement. Tu remercies toujours les gens. Et pourtant, ces gens ne sont que des causes secondes pour ce qui arrive. Tu fais des erreurs vis-à-vis des gens, tu demandes pardon. Et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu peux être négligent et ne pas penser à le remercier et ne pas penser à lui demander pardon? Le second, c'est le bon comportement envers les gens qui se résume à deux choses, faire le bien tant par les paroles que les actes et s'abstenir de causer du tort tant par les paroles que par les actes. C'est une des définitions du bon comportement, faire le bien par les paroles et les actes, et s'abstenir de faire du mal par les paroles et par des actes. Partant de ce principe, tout individu qui a un bon comportement envers les créatures, mais qui n'adore pas le Créateur et ne lui voue pas un culte exclusif, a un mauvais comportement. Le prophète, comme tous les prophètes, ont été envoyés pour quoi? Pour rappeler aux hommes d'adorer Allah seul sans rien lui associer. On a des gens, que je ne nommerai pas, que vous connaissez, qui donnent leur dernière chemise, qui accueillent le pauvre, l'émigré, etc., et qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il se passe. Donc, dans ce contexte, tu as beau dire ça, c'est un bon comportement, chez Allah, c'est pas un bon comportement, puisque les prophètes, alayhi salam, le dernier, le meilleur d'entre eux en particulier, est venu pour parfaire ce bon comportement qui n'est pas celui-là. Si tu t'excuses vis-à-vis des gens, si tu es généreux, si tu es ceci et cela, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il mérite tout tout remerciement, tous les éloges et toutes les louanges. Le si tu le fais pour autrui, tu vas attendre le résultat de ce pour qui tu le fais. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, Allah dira, allez-y rechercher la récompense auprès de ceux pour qui vous avez fait telle et telle chose. D'où l'ostentation. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est Allah qui sait tout. Ah non, c'est le pauvre, comment se fait-il qu'il fait tout ça dans ce bas monde et finalement il va aller en enfer. Tu doutes de la science d'Allah, tu doutes de son, de sa justice. Tu penses savoir plus que Allah. Celui qui fait autre chose, celui qui fait une chose pour autre que Allah, Allah ne l'accepte pas. Et donc, ce bon comportement qui n'est qu'apparent ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé le cœur de certains. Il ne s'est paré ici, en effet, il ne s'est paré du plus éminent comportement qui est la bienséance envers le Créateur, le bienfaiteur, le bienfaisant, le clément qui le nourrit, ainsi que toutes les créations, dans, par ses bienfaits. Le bon comportement envers les créatures ne sera même pas agréé par Allah, car Muslim rapporte que Aïcha, radiallahu anha, a dit, je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, durant l'époque de la Jahiliya pré-islamique, Ibn Jubdan honorait les liens de parenté et nourrissait les pauvres. Ces actes lui seront-ils d'un quelconque intérêt dans l'au-delà? Il répondit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tout cela ne lui sera d'aucun intérêt. Car il n'a jamais dit un jour, oh Allah, pardonne mes fautes, le jour de la résurrection. Tout ce que l'on fait, pour autre que Allah, Allah ne l'accepte pas. Il est celui qui se passe le plus d'associés. Tout ce qui est fait pour autre que Allah, ou avec Allah, certainement il le laisse à celui ou à ceux que tu lui as associés. Donc le bon comportement passe nécessairement par le bon comportement vis-à-vis d'Allah. L'écrasante majorité des créatures passe à côté de ce sens, l'argent, donc dont tu parles. En effet, combien de fois avons-nous entendu des gens répéter le hadith, la religion c'est avoir de bonnes relations, donc à dire une mu'amala, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors que ils ne conçoivent pas, donc ils ne font pas de prières, ils ne font pas de jeûne, ils ne font pas autre chose, sans que ce comportement n'est pas accepté. La moralité éminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam par laquelle Allah a décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam correspond à la religion qui englobe absolument tout ce que Allah a ordonné de faire. C'est ce qu'affirme Mujahid et d'autres, des interprétateurs du Coran, et c'est aussi le sens de, que revêt le mot Coran lorsque Aïcha radiallahu anha, barakallahu fi, dit son comportement, c'était le Coran. Plus précisément, il s'agit de s'empresser d'accomplir ce que Allah aime, l'esprit serein et le cœur épanoui. Concernant le fait que tout cela est inclus dans la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la cause en est que l'expression, la crainte d'Allah englobe l'accomplissement de tout ce que Allah a enjoint de faire, qu'il s'agisse d'actes obligatoires recommandés, et le délaissement de tout ce qu'il a prohibé, qu'il s'agisse d'actes interdits ou déconseillés. Or, tout cela embrasse les devoirs que l'on a envers Allah et ce que l'on a envers les gens. C'est Allah qui a défini les droits et les devoirs des gens. Par conséquent, on ne peut pas avoir un bon comportement, appeler en tout cas islamiquement un bon comportement tant que ceci n'est pas conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a défini. Allah nous a envoyé un messager alayhi salatu wasalam à prendre pour modèle. Il nous a envoyé tout ce dont on a besoin. Et donc suivre une autre voie, s'éduquer par une autre voie, certainement n'est pas accepté d'Allah et c'est forcément moindre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. C'est au domicile conjugal que l'on découvre le vrai caractère d'une personne. Je suis désolé, mais je pense que nos sœurs sont d'accord avec. Je sais pas si les frères aussi, combien les gens sont dessus. Ah, je la voyais, elle m'avait pas dit ça, il m'avait pas dit ça. Bon, on n'écoute pas tout ça, tu peux pas tout savoir. Mais Aïcha, notre mère, rapporte que le prophète a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte de la meilleure façon avec son épouse. Et je suis celui qui se comporte le mieux avec son épouse, sallallahu alayhi wa sallam. Rapport de partir Midi ibn Majah, d'après Ibn Abbas, authentifié par l'imam Albani, car elle fasse tous miséricorde. Ce hadith a été aussi rapporté en ces termes, le croyant à la fois la plus complète est celui doté des plus nobles caractères. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent de la meilleure manière avec leurs épouses. Voilà un hadith grandiose que nos sœurs ont appris par cœur, dont beaucoup de gens ignorent l'importance. Nos frères en particulier. En effet, étant donné que la femme est ce qu'elle est, c'est par elle que que l'homme est mis à l'épreuve, et vice-versa. Ainsi, si la tyrannie et l'orgueil font partie de ses caractères, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, cela apparaîtra dans l'oppression qu'il exercera dans sa famille. Or, la pire des oppressions est celle pratiquée sur ceux qui sont sous notre autorité. Ça, c'est la pire. Pire encore, quand un individu est peu clément, a des mœurs abjectes et une virilité méprisable, c'est moi l'homme, ses caractères se manifesteront dans la relation avec les plus faibles. Or, l'oppression des faibles est la méthode utilisée par les faibles. L'oppression des faibles, l'oppression déjà, c'est interdit, mais l'oppression des faibles en plus, c'est la méthode utilisée par les faibles. Car si leur moralité était forte, leur cœur ne serait pas endurci contre ceux qui méritent clémence. Ainsi, lorsqu'une personne se contrôle dans sa relation avec les plus faibles, son mérite apparaît au grand jour. Et c'est les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses, ceux qui sont les meilleurs également avec les pauvres, avec les gens faibles, y compris dans la prière. Quand le prophète sallam entendait un bébé en train de pleurer, ce qui prouve entre autres qu'on peut amener les bébés à la mosquée, qu'il allégeait parce qu'il pense à la souffrance de sa mère. Et Allah, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères. Et quand il a dit à l'imam qui dirige la prière, d'alléger la prière. Alléger la prière, encore une fois, c'est pas qulhu Allahu ahad, même si c'est un tiers du Coran. Il était le plus compatissant des hommes, mais alléger la prière, pourquoi? Parce que parmi nous, il y a la personne qui est vieille, il y a la personne qui est malade. Donc, il pense toujours aux gens les plus éprouvés, entre guillemets, aux plus faibles. C'est pourquoi, donc, les épouses méritent clémence en raison de leur faiblesse, d'après certains, et Dieu seul sait où se trouve la faiblesse. Certains ont considéré problématique le mérite de ce hadith, et donc par rapport à dire, ce hadith signifie probablement qu'Allah aidera tout individu doté de ses caractères à accomplir le reste des bonnes œuvres existantes. Bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour nous rappeler ce que nous manquons, malheureusement. Et comme malheureusement ça nous arrive, quand on rentre à la maison et que les femmes et enfants se cachent ou arrêtent de parler, tu rentres, tout le monde arrête de parler, tout le monde va dans sa chambre, c'est qu'il y a un problème. Quand il n'y a pas d'enfants, dès que tu arrives et commences à s'occuper de son téléphone et de reste, c'est qu'il y a un problème. Elle devrait tout abandonner si elle savait quel bien il y a. Elle t'attend parce que celle qui meurt en faisant ses 5 prières, en jeûnant son mois de Ramadan, et dont le mari est satisfait, elle rentre par la porte du paradis que elle veut. Donc, ce qui veut dire au moins que tu as attendu, et souvent c'est pas le cas. Une preuve de bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses réside dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Aïcha, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé qui que ce soit de sa main. Ni même une femme, ni un serviteur. À moins que ce ne soit durant le combat dans le chantier d'Allah. Et jamais il ne s'est vengé d'une personne qui aurait causé préjudice, à moins que celle-ci ne transgresse un interdit d'Allah. Et dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se vengeait pour Allah. Jamais il n'a laissé, et nos commissariats sont souvent pleins de plaintes de femmes, mon mari m'a frappé, mon ceci, cela. Ça, ce n'est pas malheureusement pour nous, ni surtout dans un pays en majorité non musulmane, on voit dans l'association des femmes battues beaucoup de personnes, en tout cas, qui se réclamant de l'islam. Al-Bukhari et Muslim rapportent qu'Anas bin Malik, radiallahu ta'ala, a dit, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans durant, et je jure par Allah que jamais il ne m'a dit, fille, jamais il ne m'a dit pour une chose que j'aurais accomplie, pourquoi as-tu fait ça? Ou pourquoi n'as-tu pas plutôt fait ça? Voilà le comportement adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un enfant. Avec un enfant. Et je ne vous dis pas, ni avec les autres. Alayhi salatu wa sallam, celui qui allait jusqu'à dire, Allahumma ghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Alors qu'ils ont creusé un guet-apens, entre guillemets, ils ont mis un guet-apens pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uhud, tombe dans leur piège, et c'est que Allah a décrété, et qui est donc arrivé, qu'il a perdu 2 incisives, d'après les versions, et on lui demande de maudire son peuple, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à son peuple parce que il ne sait pas. Tout ceci, vous le connaissez certainement. Comment est-ce qu'on on va chercher à acquérir le bon comportement. Avant tout, c'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a envoyé un livre pour nous éduquer. Donc, ne pas être éduqué prouve, entre autres, qu'on ne lit pas le livre d'Allah, au moins avec le cœur, qu'on n'y réfléchit pas. Le livre est fait pour être lu, pour être compris, et mieux encore, pour être appliqué. Allah nous dépeint les nobles caractères. Ceux des prophètes, alayhi salatu salam, dans la difficulté, la générosité, et il nous montre en même temps les caractères répréhensibles, que ce soit dans la vanité, que ce soit dans l'orgueil, etc., etc. Ça, c'est une des façons pour nous montrer ce qu'il aime. Et tu ne seras certainement pas sauvé tant que tu n'aimeras pas Allah, tu n'aimeras pas ce que Allah aime. Et donc, Allah aime les patients, Allah aime les endurants, Allah aime les gens qui font du bien, Allah aime les généreux, Allah aime. Donc, si tu veux être aimé d'Allah, et qu'Allah nous aime, certainement tu dois obligé de porter cet habit, mais pas d'un point de vue extérieur, seulement de le cultiver. Et tu n'aurais pas de mérite. Ah, moi, c'est difficile, bien sûr. Si c'était pas difficile, tu n'aurais pas de mérite. Les anges font pas de péché. Ils mangent pas, ils boivent pas. Ils peuvent même pas faire de péché. Toi qui peux faire de péché, les efforts que tu feras grâce à Allah te permettront, inchallah, d'être aimé d'Allah. Ça, c'est une des meilleures façons de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, et qui est complémentaire, c'est que Allah te dépeint. Allah parle de lui. Il est le seul à savoir qui il est. Il a ses noms et attributs. Et dans tous ses noms et attributs, tu vas trouver, donc, la perfection. Allah, il est beau. Allah est miséricordieux. Allah est généreux. Allah est pardonneur. Et souvent, dans le Coran, tu vas trouver, et il aime les pardonneurs. Et le prophète dit, Allah est beau et il aime la beauté. Allah est bienfaisant et il aime les gens qui sont bienfaisants, etc., etc. Donc, les noms et attributs sont une façon, puisque Allah est parfait. C'est une façon également de connaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être, bien sûr. On ne saurait jamais yani, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que par ce qu'il a ordonné. On ne va pas ressembler à Allah, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala, mais il nous décrit. Donc ça, c'est la première ou l'une des premières références, la deuxième étant bien sûr ce pourquoi il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Connaître la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu verras combien il était doux avec ses épouses, alayka salam, tu vois, avec les enfants. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu lui serrais la main, et nous, on serre la main que quand on attend quelque chose. Quand il serrait la main, on disait qu'il ne le relâchait pas la main. Il attendait toujours que l'autre relâche la main. Il était le plus souriant des hommes. Le sourire faisant partie, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, donc du cœur. Il y a, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que des exemples conduisant au bon comportement, ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala. La patience, n'en parlons pas. Les prophètes, alayhi salatu salam, et notamment le prophète Mohammed, sallallahu alayhi salam, était le plus patient. Et ça, on va le trouver à tous les niveaux. Donc, connaître la sirah du prophète est indispensable. D'accord, de kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le prophète d'Allah, le meilleur exemple. Je dis pas un bon exemple, c'est le meilleur exemple. Et donc, ne pas le connaître, tu ne peux pas t'éduquer, puisque Allah l'a envoyé pour parfaire les bons comportements, et à commencer, bien sûr, le meilleur comportement humain, c'est le sien, alayhi salatu salam. Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, celui qui désire bénéficier de ce qu'il y a de meilleur dans cette vie et dans l'au-delà, celui qui souhaite acquérir la sagesse de cette vie, un mode de vie intègre, tous les nobles caractères, la réalisation des vertus dans leur totalité, se doit de suivre l'exemple de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il se doit de mettre en pratique les comportements, son mode de vie autant que faire se peut, qu'Allah nous aide à suivre l'exemple prophétique par sa grâce et par sa générosité. Il y a autre chose qu'on néglige souvent, c'est l'invocation, ad-du'a. C'est Allah qui donne tout. Tout bien vient de lui. Ne pense pas que moi je suis comme ça. Non, moi je suis bien. Naturellement, j'aime pas ça. Naturellement, qui te l'a donné? C'est Allah. Et celui qui ne l'a pas, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui l'a, il remercie Allah et Allah rajoute. Ta'adhana rabbukum la in shakartum. Comme ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Et tu ne saurais jamais le remercier pour tout ce qu'il t'a donné et tout ce que tu as. C'est Allah qui te l'a donné. L'invocation est un moyen important pour acquérir les bons comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de beaucoup d'humilité, de modestie devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des nobles vertus, en lui demandant de lui octroyer un bon comportement. Comme on a vu quand il s'est levé la nuit, entre autres, durant la prière nocturne, il disait dans la prière nocturne, « Guide-moi vers le meilleur comportement, car nul ne guide vers le meilleur comportement si ce n'est toi. » Si tu as un mauvais comportement, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de changer ton mauvais comportement en bon comportement. C'est le seul qui est capable de le faire, c'est pas toi-même. Tu ne saurais bouger ni déguster ton thé si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'arrive sans sa volonté. Et si tu sais qui il est, si tu connais Allah, forcément, tu vas l'invoquer, nécessairement. Et donc, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous pétrir du meilleur comportement, l'invocation donc du professeur sallam. Il y a la bonne compagnie. La bonne compagnie, le bon comportement s'acquiert en partie grâce ou via la bonne compagnie, la fréquentation des gens pieux. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme a la religion de son ami intime. » Prêtez donc attention à qui vous prêtez, à qui vous prenez plutôt comme ami intime. Et vous connaissez l'histoire, bien sûr, de la bonne compagnie et la mauvaise. La bonne compagnie étant comparable, a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam, à celle du vendeur de parfums. Soit il t'en donne, soit il t'en vend, au moins tu le sentir bon. Toi, tu es toujours avec les gens, mashallah, qui se rappellent Allah. Même si tu as envie de faire des péchés, tu n'en as même pas, tu en as moins l'occasion. Parce que tu auras honte au moins d'eux, pour ne pas dire si tu n'as pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une chose qui est importante, c'est également comment acquérir le bon comportement. Et je finirai dessus, je vois que j'ai pris du temps. L'autocritique et la remise en question. Beaucoup d'entre nous ne se remettent jamais en question. Moi, je suis bien, c'est elle qui est mauvaise. Moi, je suis bien, c'est les gens qui sont mauvais. Et le professeur m'a dit, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Si les gens disent que tu es bien, peut-être que tu es bien. Ça, c'est moi qui le dis. Lui dit, si les gens disent que tu es bien, c'est que tu es bien. Si les gens disent que tu es mauvais, tu as beau dire, non, c'est les non-musulmans, ils n'aiment pas les musulmans, etc. Il y a un problème. Le professeur a été aimé pour ce qu'il était avant la révélation. Mohammed Amin, sallallahu alayhi wa sallam. Et même quand on a voulu attenter à sa vie, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parti en disant, eh ben, voilà, c'est les koufars, hein. Ils veulent me tuer, donc je vais les trahir. Non. Il a laissé Ali, que vous connaissez, radhiallahu anhu, avec les dépôts qui lui ont été confiés. Donc, ne vois pas ce que les gens te doivent, vois ce que tu dois aux gens. Et le dépôt en particulier, quand on te confie, si tu le trahis, ça fait partie de l'hypocrisie ou des caractéristiques de l'hypocrisie, comme l'a dit le professeur sallam. Donc, le fait de se remettre en cause, l'autocritique, la purification de l'âme passe obligatoirement par la remise en question de soi. Le minimum, c'est de t'asseoir au moins un moment de la journée, généralement quand tu es couché avant de dormir, et de faire le bilan. Et je vous dis, mes frères et mes sœurs, quand il y a un conflit, quel qu'il soit, notamment dans la famille, tu as au moins 1% de responsabilité dedans ou de faute. Minimum 1%. Mais toi, tu ne vois que les 99%. Non, moi c'est en gros, c'est de sa faute, non. C'est de notre faute, elle a sa part de responsabilité. Tu as la part de responsabilité. Et si tu ne vois pas de part de responsabilité, sache quand même que tu en as. Parce que Allah t'a confié une responsabilité. C'est celle de ta famille. Tu as une si tu n'arrives pas à gérer, s'il y a des problèmes, c'est que tu es un mauvais gérant. Au moins, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait pour éviter ça? Dans tous les cas, tu reviendras vers Allah repentant. Mais tu ne saurais le faire qu'en faisant une autocritique. Le plus souvent possible. Allah a éprouvé qui l'a éprouvé. Des prophètes, alayhim salam, ils auront des femmes qui iront en enfer. Des enfants qui iront en enfer, on a oublié. Mais ils ne sont pas responsables de cela. Mais tu dois t'interroger de savoir pourquoi ça s'est arrivé. Ça vient certainement de moi. On dit que même les sueurs froides, une piqûre d'épine, ça vient de péché que tu as fait et que Allah, dans sa miséricorde, va te pardonner au travers de cette épreuve-là. Ah non, 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 moi, c'est pas de ma faute. C'est jamais ta faute, toi. Jamais. C'est toujours la faute des autres. Ne cherche pas la faute des autres. Cherche ta part de responsabilité parce que demain, tu seras interrogé dessus. Et si tu as pris le droit de qui que ce soit, d'une créature quelconque, et il ne te parle pas de ta femme, je te parle pas de tes enfants, je te parle pas de tes camarades, si tu as pris le droit de quiconque, c'est lui qui a commencé. Je te demande pas qui a commencé. Mais c'est toi qui as continué. On a vu le hadith d'Abu Bakr, Allah anhu. Allah lui a donné de nobles caractères. Le simple fait de répondre au mal, tu vas faire rentrer Shaitan et tu seras responsable de ça. Et l'idéal, c'est bien sûr le comportement du prophète sallam, comme Allah dit, idfa billati hi ahsan, on te fait du mal et tu réponds par le bien, c'est encore mieux. Ça, c'est la meilleure des choses. Donc, il convient d'examiner en permanence ton âme, et ainsi tu seras digne d'être parmi les gens du bien. Si tu examines ton âme constamment, le bien viendra à toi et te réclamera à l'image de l'eau qui suit le ruissellement le long d'une pente. Et pour tout cela, il faut être sincère. Il faut être sincère et ne pas se voiler la face. Si tu n'es pas sincère avec toi-même, tu ne verras pas tes défauts. Et pourtant, Allah sait. En fait, dit à Jésus, regarde la poutre qui est dans ton œil plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. Nous, on ne voit que la paille qui est dans l'œil de nos frères et sœurs. Il a fait ça, elle a fait ça, il a fait ça, elle a fait ça. Et toi, ce qui est dans ton œil, c'est certainement, ça te voile complètement la vue et le cœur surtout. Tu ne vois même pas quelle est ta part de faute. Allah ne va pas te demander, comme l'a dit le prophète sallam, au Daesh et leurs ancêtres, hein. Obéissez, donnez-leur les droits aux dirigeants. Et Allah va vous donner et réclamer vos droits à Allah. Allah va vous donner vos droits. Si eux ne vous donnent pas les droits, c'est comme cette femme. J'ai fait ça, il est comme ça, je n'ai. Donne, tu as des devoirs vis-à-vis de ton mari. Et si tu lui obéis, ce n'est pas pour lui, c'est pas parce qu'il est beau. C'est pas parce que tu crains d'être divorcé, c'est pas parce que non, tu le fais parce que Allah t'a demandé de le faire dans tous ceux qui désobéissent pas à Allah. Si nos couples étaient comme ça, on ne serait pas. Et la risée, malheureusement, des gens aujourd'hui, forcément, on va avoir des conflits. S'il n'y a pas de conflit, je dirais, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de mérite. Allah nous éprouve par ce qu'il veut pour notre bien. Et donc, tu te dois d'être sincère avec toi-même et de voir dans cet examen de conscience qu'est-ce que tu dois. Et pour cela, il te faut avoir la connaissance de tes devoirs. Et ça, tu ne le sauras qu'au travers d'une science que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. Quels sont mes devoirs vis-à-vis d'Allah? Quels sont mes devoirs vis-à-vis de toutes les créatures, à commencer par mes pères et mères, ensuite et finir par la chatte que tu as achetée ou qu'on t'a offert, et vis-à-vis de tout, y compris vis-à-vis de l'eau qui circule, et que les musulmans maintenant parlent d'écologie ou les non-musulmans d'écologie ou le reste, alors que tout a des droits et que tu seras interrogé sur tout gaspillage que tu auras fait. Et il y a bien d'autres choses. Alhamdulillah, ceux qui sont il y a des références. Invitation au bon comportement du Cheikh Ramadani. L'éthique du musulman du Cheikh Saadi. Qu'Allah le fasse miséricorde. Comment acquérir un bon comportement du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Hammad. Et bien d'autres. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne le meilleur comportement. Donc, qui nous permettra d'être proche, le plus proche possible du prophète sallallahu alayhi wa sallam.